France Musique. Musique et moi.
Jean-Jacques Ayacon.
Elsa Boublil.
Ma foi sur l'avenir, bien fou qui se fiera, tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Jean Racine.
Les plaideurs.
Les plaideurs.
Acte 1, scène 1. C'est sur la toccata de l'Orfeo de Monteverdi que nous vous accueillons, Jean-Jacques Ayacon, président des Amis du Festival d'Automne à Paris, commissaire général de la Biennale des Arts de Nice. Vous êtes également conseiller auprès de François Pinault. Vous avez été ministre de la Culture et de la Communication dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2004, puis président de l'établissement public du Château, Musée et Domaine National de Versailles de 2007 à 2011. Dans les années 90, vous avez été directeur des affaires culturelles à la mairie de Paris, puis vous avez présidé le Centre Georges Pompidou en 96. J'en passe encore, mais bonjour à vous Jean-Jacques Ayacon.
Bonjour à vous.
Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes un homme de culture, bien évidemment, et la musique a sa place dans votre vie. Ce n'est pas forcément quelque chose dont on a pu majoritairement parler, parce que c'est pas là-dedans que vous avez exercé. Néanmoins, la musique a toujours été là.
La musique a toujours été là, en effet. Écoutez, je n'ai jamais dirigé d'orchestre, je n'ai jamais dirigé de festival. J'aime beaucoup la musique, j'adore la musique même, mais je ne joue d'aucun instrument. Toutes les missions que j'ai pu exercer dans le domaine de la culture sont des missions de généraliste. Et donc, en fait, j'étais spécialiste de rien du tout, ni en musique, ni en théâtre, ni en art plastique, ni en littérature. Mais voilà, il m'a été donné d'avoir des responsabilités à l'égard de tous ces domaines de la vie culturelle et j'en suis très heureux.
On a choisi de vous diffuser l'Orfeo de Monteverdi et cette toccata parce que j'ai lu que c'était une musique que vous écoutiez beaucoup du temps où vous étiez ministre de la Culture le lundi.
Oui, parce que c'est de la musique qui donne de la pêche.
Oui.
Alors c'est une histoire qui se finit un peu mal naturellement, oui. Mais l'ouverture, la symphonie de l'ouverture, elle est extrêmement tonique, elle est extrêmement enthousiasmante. Et donc en effet, j'adorais l'écouter le lundi pour me donner du cœur pour tout le reste de la semaine.
Et cette phrase de Jean Racine, extraite des plaideurs, « Ma foi sur l'avenir, bien fou qui se fiera, tel qui rit vendredi, dimanche pleurera ».
Bah, c'est une façon, c'est une maxime que j'aime beaucoup, parce que c'est un vieux proverbe tout d'abord, et c'est une façon de ne pas être présomptueux, de ne jamais finalement disposer pour le futur, dont nous ne savons ni les uns ni les autres ce qu'il sera. C'est une façon non, également, à mes yeux, de ne pas être pessimiste, parce que cette maxime, on pourrait l'inverser. Tel qui pleure vendredi, dimanche rira. Et c'est là plutôt qu'est ma règle de vie et ma maxime. Je pense toujours que demain peut être mieux qu'aujourd'hui. Et de façon plus générale, j'imagine que dans le destin des hommes, dans l'histoire de l'humanité, en effet, les choses progressent et que demain pourra être meilleur qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui est meilleur qu'hier.
Si on reste vigilant, bien sûr.
Si on reste vigilant, bien sûr. Je ne crois pas à la fatalité. Je crois que tout est également une affaire de décision, de volonté. Donc je crois que l'avenir, il nous appartient de le bâtir ensemble.
Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, est l'invité de Musique et moi ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique. Et c'est une joie de vous recevoir. Nicole Rieu avec l'ensemble vocal Euterpe qui interprétait l'hymne à la nuit de Jean-Philippe Rameau. Cet hymne à la nuit qui est une harmonisation qui est due à Joseph Noyon, extrait de l'opéra de Rameau, donc Hippolyte et Aricie. Dans ce duo des prêtresses de Diane, rendons un éternel hommage, et là qui a été réactualisé donc par Noyon et dont les paroles ont été écrites par Édouard Chertineau. Et c'est un premier souvenir, je crois, Jean-Jacques Ayagon, premier souvenir musical qui vous émeut.
Alors c'est un souvenir très très cher, parce qu'en effet, chez moi, je vivais à ce moment-là sur le bassin houillé de Lorraine, dans une petite ville qui s'appelle Creutzwald. Chez moi, on n'entendait pas, on n'écoutait pas de musique, et donc la musique, je l'ai entendue dans les lieux partagés, je l'ai entendue et pratiqué à l'école. Je faisais partie d'une chorale, de la chorale de l'école, et nous avons chanté cet hymne à la nuit qui m'a le premier appris qu'un musicien qui s'appelait Rameau existait. Je n'avais jamais entendu de musique de Rameau. Et d'ailleurs, cette harmonisation de Joseph Noyon est un peu éloignée de l'air d'Hippolyte et Aricie. Mais en tout cas, ça m'a donné l'amour de la musique et l'amour d'en entendre plus. C'est également à l'église que j'entendais de la musique, l'orgue qui ronflait, peut-être maladroitement, mais je crois que l'amour de la musique, on peut l'acquérir, y compris parfois, par une mauvaise manière de faire de la musique.
Oui, parce que donc chez vous, on n'écoutait pas de musique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de
tourne-disque.
De tourne-disque, voilà.
Il m'arrivait sans doute d'entendre un peu de musique à la radio. Mais il n'y avait pas de lecteur à musique, il n'y avait pas de disque. Il m'arrivait d'aller écouter des disques chez des voisins, qui m'accueillaient d'ailleurs très chaleureusement. Je me souviens d'avoir écouté chez eux pour la première fois Haydn, d'avoir écouté Handel, d'avoir écouté le Messie, d'avoir écouté la 9e symphonie de Beethoven, naturellement les 4 saisons de Vivaldi, donc les grands classiques du répertoire musical. Mais cette musique, en même temps, je l'entendais et je la faisais, je la pratiquais à l'école, et je conserve, d'ailleurs je ne me souviens pas de son nom, mais un souvenir très ému de notre professeur de musique, et sans cesse dans mes responsabilités publiques, ça m'a rappelé qu'il fallait tout faire pour que l'école soit pour ceux qui n'avaient pas la chance d'accéder spontanément à la musique, à l'art, à la littérature, à ce que nous appelons la culture, leur permette d'y accéder, en tout cas d'en faire un trésor partagé.
Et d'ailleurs c'est étonnant de voir que les enfants dont vous avez dû être ne segmentent pas la musique en genre, c'est-à-dire qu'il suffit que l'émotion soit pour que la musique arrive à votre cœur et devienne une possibilité d'ouvrir son horizon vers autre part.
Ah bah, d'une part, ça ouvre l'horizon vers des sentiments, ça permet de transcender l'existence quotidienne, ces sentiments. Ça ouvre également l'intelligence vers ce que nous appelons la culture, donc l'idée qu'il y a des musiciens, qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité des gens qui ont écrit de la musique, qu'il y a de grands interprètes qui l'ont joué, que tout ça constitue un trésor et que ce trésor doit être désiré partout. S'il y a une grande inégalité dans la réalité de l'accès à la culture entre ceux qui accèdent facilement parce que leur contexte familial, social ou géographique le permet et ceux qui en restent éloignés. Ça doit être une préoccupation constante, quotidienne de l'action publique que de faire en sorte que cette inégalité soit compensée.
Donc vous, Jean-Jacques Ayagon, il y a eu l'école, mais aussi l'église, c'est
bien ça ? L'église, bien sûr, avec là aussi une chorale, avec là aussi des instruments et notamment l'orgue.
La cantate BWV 140, Wacht auf, ruft uns die Stimme.
Wacht auf, ruft uns die Stimme.
Donc, pour chœur et orgue, interprété par le chœur de l'orchestre d'Amsterdam, sous la direction de Ton Koopman. Merci Jean-Jacques Ayagon. C'est une chorale que vous avez chantée.
Ah oui, j'ai chanté parce qu'à cette époque, la Moselle de l'Est était encore très très largement germanophone. Elle avait été annexée, vous le savez, à deux reprises, annexée à l'Allemagne. Ma grand-mère, qui m'a très très largement élevé, ne parlait pas le français d'ailleurs. Elle était née en 1889 dans la Moselle annexée. Elle est redevenue française en 1918. Ma mère, qui est née le 16 septembre 1918,
ah oui,
est née allemande pendant quelques jours, pendant quelques semaines, avant d'être réintégrée à la nationalité française après la défaite de l'Allemagne. Donc tous ces gens étaient de culture allemande. Et le culte à l'église se célébrait à la fois en français, mais également en allemand. Et donc, Wacht auf, ruft uns die Stimme. Je l'ai chanté en allemand. En me disant d'ailleurs à l'époque, parce que vous savez, on sortait des horreurs de la Deuxième Guerre, et notamment de l'extermination, de la persécution des Juifs, je me suis souvent demandé comment les Allemands, qu'ils soient catholiques ou luthériens, aient pu continuer à chanter ces psaumes, sans se souvenir en effet tout ce que le christianisme devait à la religion juive, devait à Israël. J'y pensais, ça me troublait beaucoup, parce que on n'en était pas très très loin de ces horribles périodes, et je me disais qu'il y avait là une sorte de contradiction de l'histoire, et qu'on ait pu à la fois persécuter les Juifs et d'autre part être aussi largement tributaire du lait culturel qu'ils nous avaient laissé.
Et vous compreniez ce que vous chantiez à ce moment-là, Jean-Jacques Ayagon ?
Oui, j'ai toujours essayé de comprendre ce que je chantais. Voilà, j'étais un enfant un peu taciturne, donc il réfléchissait beaucoup.
Ouais. Vous parliez de l'enfance, justement, où donc vous avez tout appris par l'école et là, la chorale de l'église. Vous étiez sept enfants,
oui,
sept frères et sœurs?
Ma mère a eu beaucoup d'enfants. J'ai été le premier de ses enfants. Ensuite, elle a été mariée à plusieurs reprises. Et donc, elle a eu beaucoup d'autres enfants, donc mes frères et sœurs. Donc voilà, j'ai aussi appris à partager dans mon enfance avec d'autres. C'est une bonne leçon de vie.
Et j'ai beaucoup lu justement que avec tous ces enfants, cette maman plus ou moins seule, vous avez beaucoup compté sur l'école pour vous sortir de votre milieu. Qu'est-ce que représentait l'école pour vous à ce moment-là? Vous aviez conscience que c'était une possibilité?
Alors, ce n'était pas raisonné de façon aussi abstraite, de façon aussi, disons, même politique. Mais l'école, c'était ma respiration, c'était mon espace de bonheur. C'est là que j'accédais à des choses qui m'étaient inaccessibles par ailleurs. J'avais donc plaisir à entendre, plaisir à lire, plaisir à apprendre l'histoire. J'ai toujours été passionné d'histoire et de géographie. D'ailleurs, j'ai enseigné, plus tard, j'enseignerai l'histoire et la géographie.
En Corrèze.
En Corrèze, à Égletton d'abord, à Tulle ensuite. Donc l'école m'a beaucoup donné, beaucoup, beaucoup donné.
Pourquoi n'irais-je pas vers terme du voyage, et je suis avec ce breuvage, le seul maître de mon destin. Je suis avec ce breuvage, le seul maître de mon destin.
Richard Leach interprète l'acte 1, scène 1 de Faust de Gounod, Rien en vain j'interroge, avec l'orchestre et le chœur du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson, qui nous renvoie, Jean-Jacques Ayagon, à, je crois, à votre adolescence, à un changement de vie finalement.
Tout à fait, un changement de vie. Il se trouve que au début des années 60, j'ai quitté, bon, pour des raisons de complexité familiale, j'ai quitté ma mère, je suis allé vivre chez mon père, qui habitait Toulouse. Et pour moi, Toulouse a été vraiment un révélateur de beaucoup de choses, et plus particulièrement de l'opéra. C'est à Toulouse que, pour la première fois de ma vie, je suis allé à l'opéra, au Capitole.
Avec votre père ?
Sans mon père, avec une amie de mon père, dont le mari était commissaire de police et qu'on appelait la commissaire. Donc la commissaire adorait la musique. Son mari, le commissaire, ne l'accompagnait pas ni au concert ni à l'opéra. Donc la commissaire avait trouvé en moi un compagnon de musique. Et donc le premier opéra auquel j'ai assisté, c'est le Faust de Gounod. Je dois dire que je vois toujours ce même Faust avec beaucoup de plaisir. C'était une époque ancienne, déjà pour le Capitole. Les grands chanteurs à cette époque étaient Maddy Mesplé, Tony Poncet, Gabriel Baquier, qui chantait également très très souvent, donc plutôt des chanteurs héroïques. Mmh. Mais en tout cas, je conserve de tout cela un souvenir formidable.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et c'était beau, Jean-Jacques Ayagon, parce que vous citiez donc les paroles de cette scène 1 de l'acte 1, et j'ai relevé que vous entendiez bien « Je languis triste et solitaire ». Alors je me suis évidemment posé la question, est-ce que ça vous a renvoyé à ce moment-là une solitude personnelle cette...
Peut-être, on est toujours attentif naturellement aux musiques qu'on entend et aux paroles qu'on entend, mais enfin je ne veux pas non plus doloriser ma vie, je n'étais pas absolument triste ni absolument solitaire, mais sans doute atteint d'une forme de légère mélancolie. Alors cet ouvrage, en effet, qui commence par rien, par une sorte d'affirmation du néant des choses, c'est évident que ça me fascinait, que je m'y retrouvais un peu.
Avec la dimension philosophique aussi
avec
de l'œuvre.
Avec la dimension philosophique de l'œuvre, avec des choses d'ailleurs qu'on comprend beaucoup mieux plus tard en avançant dans la vie, notamment cette relation très difficile que nous avons avec le temps qui passe, avec l'âge qui s'affirme, avec la diminution de nos enthousiasmes, de nos capacités à faire. Mais voilà, c'est le destin commun de toutes les femmes et de tous les hommes.
Thank you.
Casta Diva de Norma de Bellini avec l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Carlo Felice Cilario avec Montserrat Caballé, qui est un souvenir, je crois, Jean-Jacques Ayagon, qui date des années 70.
Oui, des années 70. Vous m'avez même un tout petit peu rafraîchi la mémoire. D'ailleurs, c'était en 74. Moi, j'étais enseignant en Corrèze et tous les étés, après la fin des classes, j'allais au Festival d'Avignon et au Festival et dans les autres festivals de la région, notamment le Festival d'Orange. C'était l'époque où le festival était dirigé par deux personnalités que j'ai connues, par Jean Darnel et Jacques Bourgeois. Donc, vous voyez, on parle d'un temps qui est très, très lointain. Et donc, je me souviens vraiment de façon très précise de cette soirée extraordinaire où, dans le théâtre antique d'Orange, Montserrat Caballé chantait Casta Diva, chantait son rôle de la Norma, alors que le Mistral, un Mistral terrible, soufflait, il faisait très froid, les gens étaient empaquetés dans des couvertures, et malgré tout, la magie de la musique s'est produite, et ça a été un moment vraiment, vraiment merveilleux.
Ce festival, effectivement, ces conditions climatiques, la nuit, et parfois le froid, on dirait que ça participe à l'engouement naissant pour l'opéra. En tout cas, ça peut faire quelque chose.
Ah ben, il faut être absolument insensible pour ne pas être transformé, pour être transbordé quasiment quand on assiste à un spectacle remarquable à Orange, parce qu'en effet, il y a là une sorte, également ce sentiment de communion. On n'est pas seul à écouter de la musique, on n'est pas seul devant son poste de radio ou devant son lecteur de disques ou de CD. On est là avec d'autres, au même moment, à écouter, à s'émerveiller, à être transporté. C'est un moment de transport. Et à chaque fois qu'à Orange, il m'était donné d'assister à un spectacle extraordinaire, j'ai un souvenir également très très précis d'une Salomé avec Léonie Rizanek à la fin du spectacle. Rizanek chantait quasiment retourné, la tête renversée dans la fosse, donc totalement révulsée. Une sorte de folie s'était emparée d'elle, folie qui collait bien au personnage qu'elle était en train d'interpréter. Il est évident que ce sont des moments de musique et des moments de théâtre tout à fait exceptionnels.
Est-ce que c'est à ce moment-là, Jean-Jacques Ayagon, vous qui fréquentiez donc Avignon, Orange, peut-être Aix également, que votre vie a basculé, parce que ça a été soudain? Je crois que ça s'est passé dans ces années 70.
Oui, tout à fait. Cette période a joué un rôle déterminant dans ma vie. Et si j'étais ministre de la Culture ensuite, c'est parce que je me suis trouvé un jour à un festival d'Avignon et qu'un ami m'a dit qu'il allait dîner avec le ministre de la Culture de l'époque. Il s'agissait de Michel Guy, que j'en suis bien connu. Bon, je suis allé à ce dîner. J'ai parlé à Michel Guy, qui m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais prof en Corrèze. Et il m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de travailler au ministère de la Culture?
Mais comme ça?
Comme ça, voilà. Je lui ai dit.
Au cours du
repas. Je lui ai parlé un peu de ce que j'aimais, de ce que je faisais, de ma façon de considérer ce qu'on appelait la culture. Donc il me dit, ça m'intéresserait beaucoup que vous puissiez travailler au ministère de la Culture. Il m'a dit, allez voir telle personne, il s'agissait de Jean Musy à mon cabinet, et nous allons solliciter votre détachement du ministère de l'Éducation nationale au ministère de la Culture. Ça a été fait, donc à la rentrée suivante, je me suis retrouvé au ministère de la Culture. Michel Guy venait de le quitter, il avait été remplacé par Françoise Giroux. Mais néanmoins, j'étais là, et donc on m'a affecté, je pense, à cette époque, à l'école des Beaux-Arts. On m'a dit, écoutez, puisque vous venez de l'Éducation nationale, on va vous mettre dans une école. Je me suis retrouvé à l'école des Beaux-Arts, où on m'a chargé de deux choses. D'une part, de m'occuper du centenaire de Viollet-le-Duc, c'est la raison pour laquelle je reste aussi attaché à l'œuvre et à la mémoire de Viollet-le-Duc.
Et à Notre-Dame.
Et à Notre-Dame. Et puis d'autre part, on m'a demandé à l'école des Beaux-Arts de m'occuper des collections de l'école qui étaient un peu en déshérence à ce moment-là, de les mettre en valeur à travers des expositions. Donc j'ai appris les métiers de la culture de cette façon.
L'introduction de Répond de Pierre Boulez, donc pour six solistes d'ensemble instrumental avec des sons fixés qui viennent de canaux différents, Jean-Jacques Ayagon, et qui donc il y a quelque chose de stéréophonique ici.
Oui, c'est de la musique en relief. La première fois que j'ai entendu cette œuvre, c'était donc au Centre Pompidou. J'étais à ce moment-là administrateur du Musée national d'art moderne. C'était en 1984. Et on avait dégagé une galerie d'exposition au rez-de-chaussée du Centre Pompidou, une galerie qui s'appelle la Galerie Sud. Et donc, Boulez s'était installé au milieu de cet espace. La musique, on était au milieu avec lui. Et la musique venait de partout, de tous les coins de l'espace. Elle avait un relief extraordinaire. Bon, Michel Guy, donc vous savez le rôle qu'il a joué dans la diffusion de la création contemporaine dans notre pays, à travers notamment le Festival d'automne, dont il avait été le créateur. Michel Guy m'avait finalement très très largement initié à la musique et à la création de notre temps. Et donc avoir la chance d'être au Centre Pompidou, administrateur du Musée National d'Art Moderne, dans un établissement où l'un des départements, l'IRCAM, était à ce moment-là dirigé par Pierre Boulez, avec un jeune homme qui travaillait auprès de lui, qui s'appelait Laurent Bayle, et dont on sait ce qu'il est devenu ensuite. Oui. C'était une chance extraordinaire. En tout cas, ça reste un moment très très fort de ma vie professionnelle et de ma vie culturelle, que cette première, en tout cas pour moi, cette première audition de Répond de Boulez.
Vous le disiez, Jean-Jacques Ayagon, tout à l'heure, la montée à Paris a été l'occasion pour vous donc d'être au cœur, on pourrait dire, de la culture, au cœur de vos passions. C'est comme ça que les choses se sont enclenchées par la suite, de pouvoir fréquenter plus de théâtre, plus de salles de concert.
Alors, ça a été un moment vraiment très très fort. J'évoquais le rôle du Festival d'automne qui a été le grand introducteur dans notre pays de la modernité internationale. La première fois que j'ai eu l'occasion d'aller voir Bob Wilson, c'était à Paris, dans le cadre du Festival d'automne. Je me souviens avec beaucoup de précision d'Einstein on the Beach, et beaucoup d'autres spectacles, beaucoup d'autres concerts. La première fois que j'ai entendu Phil Glass a été dans le cadre de ce festival, qui a d'ailleurs longtemps, aux côtés de Michel Guy, été animé par deux femmes tout à fait remarquables, Marie Collin et Joséphine Markovitch, qui d'ailleurs travaillent toujours pour le festival. Donc voilà, c'est formidable à un moment donné de pouvoir se retrouver dans une telle intensité d'offres culturelles, pour employer le jargon actuel de la culture.
C'est pour ça que vous avez tenu à rester lié au Festival d'automne en faisant partie des amis du Festival d'automne, Jean-Jacques
Ayagon. Oui, donc je fais partie des Festivals d'automne et même je préside maintenant les amis du Festival d'automne. Je préside depuis la mort de Pierre Berger. À sa disparition, on m'a proposé de lui succéder. J'ai reçu cette proposition comme un très très grand honneur, à la fois parce qu'il s'agissait d'aider le festival fondé par Michel Guy, et d'autre part parce qu'il s'agissait de succéder à Pierre Berger, une autre personnalité pour laquelle j'ai conçu tout au long de ma vie professionnelle beaucoup d'admiration et beaucoup d'estime, beaucoup de reconnaissance aussi.
Et ben on va rendre un petit hommage au Festival d'automne avec l'honneur qui a été mis à John Cage dans le cadre du portrait Merce Cunningham et avec le Centre National de la Danse qui ont célébré donc le compositeur que voici. Extrait de The Seasons de John Cage, interprété par Francesco Tristano, pour mentionner le Festival d'automne qui rend hommage donc au compositeur John Cage. Ce Festival d'automne qui, vous le disiez, Jean-Jacques Ayagon, vous a mis un peu le pied à l'étrier de la musique contemporaine, de l'art contemporain, c'est ça ?
De l'art contemporain également, c'est un festival, pour employer une expression de l'époque, pluridisciplinaire, donc qui caresse tous les domaines de la création artistique. C'est un festival d'une ambition gigantesque. Et donc pour moi, ça a été, c'est resté quelque chose d'essentiel.
Et quand, en 84, donc vous assistez à la création de Répond, qu'on a écouté tout à l'heure de Pierre Boulez, il y a cette connaissance, évidemment, on est en 84, plus tard vous allez diriger le centre Pompidou, est-ce qu'il y a cette connaissance déjà de la nécessité de réussir à rendre actuel et accessible l'art contemporain qui est si souvent jugé inepte, enfin difficile à percevoir et à comprendre par le grand public?
Vous savez, s'il y a eu le centre Pompidou, c'est parce qu'il y a eu Georges Pompidou et Claude Pompidou, hein, qu'il faut sans cesse associer à sa mémoire. Georges et Claude Pompidou ont eu un grand projet, celui de faire en sorte que la création de notre temps ne soit pas réservée juste à une, entre guillemets, une élite, mais qu'elle soit désirée par tous et accessible à tous. Et donc, ce sont des institutions comme le Festival d'automne, comme le Centre Pompidou, qui sont attelées à cette vaste ambition de renouer avec la création de notre temps. Ambition d'ailleurs que Radio France n'avait jamais totalement quittée. Il ne faut pas oublier que Radio France a été un formidable et permanent terrain d'expérimentation musicale.
Ici, à France Musique, c'est vrai.
Et que d'ailleurs, l'un des directeurs de la musique de votre maison aurait été Claude Samuel, qui était justement très proche de Jean Maheu, président du Centre Pompidou, qui deviendra d'ailleurs ensuite président de Radio France et justement apportera dans cette maison tout son amour de la musique.
Et c'est ainsi que aussi vous allez tout le temps, on a l'impression, côtoyer Jean-Jacques Ayagon l'art contemporain et puis toujours ce rapport à l'histoire qui est sans doute lié à votre premier métier qui était prof d'histoire et géographie, comme si vous cherchiez tout le temps à tisser le fil entre le passé et le présent.
Parce que je crois qu'il n'y a pas de distance, vous savez, je suis toujours un peu concerné par la tentation de certains d'établir une sorte de fossé abrupt entre les arts d'hier et les arts d'aujourd'hui. À mon sens, l'art contemporain n'existe pas, parce que tout art est contemporain. Nous ne regardons pas une Vierge romane ou une sculpture grecque du 5e siècle avant notre ère, comme le faisaient les contemporains, de la production de ces œuvres. Nous les regardons avec notre regard d'aujourd'hui. Et donc ces œuvres redeviennent contemporaines. Toute œuvre artistique est contemporaine dans notre regard, et donc au même titre que les œuvres qui sont produites aujourd'hui. Et donc pour moi, la culture n'a pas de limite, elle n'a pas de barrière, elle n'a pas de frontière. Tout cela, ça forme notre patrimoine, et ce patrimoine va encore s'enrichir.
Ainsi que ce qui a été considéré comme peut-être le manifeste de la musique contemporaine, le Sacre du Printemps. Un extrait du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, interprété par l'orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, sous la direction de Philippe Jordan. Est-ce que je peux avouer à nos auditeurs que vous avez presque dansé, Jean-Jacques Ayagon ?
Pendant l'audition du Sacre, bah oui. Oui, c'est d'une musique faite pour danser, c'est d'une musique sensuelle. Je connais peu de musique aussi violente et sensuelle à la fois. Bon, c'est une musique fondatrice également. Il ne faut pas oublier que cette musique a été écrite au moment où, par ailleurs, en peinture, on faisait les grandes révolutions du début du XXe siècle, avec le cubisme, par exemple. C'est une œuvre qui est quasi contemporaine des Demoiselles d'Avignon. Donc on voit bien ce moment d'effervescence au début du XXe siècle, quand tous les canons se mettent à s'effondrer et qu'on se met à imaginer de faire de la musique, de faire de la peinture, de faire de tout différemment. C'est un moment d'exceptionnelle liberté.
Oui, et tout ça en plus chez nous.
C'est sur les scènes parisiennes, et souvent d'ailleurs dans une grande effervescence du public. Une bonne partie du public était scandalisée par ce qu'ils estimaient être la lubricité des danseurs, pour reprendre l'expression de l'époque. Parce qu'en effet, c'est de la danse très physique, très charnelle. Voilà, c'est tout sauf de l'art tiède, c'est de l'art très, très, très fort.
Et vous, ça correspond à quel moment de votre vie, Jean-Jacques Ayagon ? Ça correspond à un souvenir particulier ?
Oui, ça correspond à un moment de ma vie où je vivais avec un très grand danseur, avec Patrick Dupont. Et donc, j'allais plus encore que d'habitude au ballet, notamment à l'Opéra de Paris. Et j'ai vu souvent Patrick, superbe danseur, extraordinaire danseur, danseur très instinctif, danser le Sacre du printemps.
L'invention en mi bémol majeur BWV 791 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Glenn Gould. Glenn Gould qui figure parmi les interprètes que vous préférez, je crois, Jean-Jacques.
Alors, c'est l'un de ceux qui m'ont le plus marqué. J'aime par-dessus tout Bach et je dois vous dire que une bonne partie de ma vie aura été bercée par cette façon-là d'interpréter la musique pour clavier de Bach, cette façon extrêmement géométrique, cette façon de disséquer la musique sans jamais lui enlever son émotion. C'est un prodige que d'être aussi précis dans la manière de frapper le clavier sans pour autant oublier que derrière tout ça, il y a également du sentiment. C'est un immense interprète, en tout cas que je réécoute très très souvent.
Et que, dont vous ne vous lassez jamais ?
Non, je ne m'en lasse jamais. Alors, vous savez, toutes les interprétations ultérieures des musiques qu'il a jouées les ont conduites sur d'autres voies, notamment les voies, par exemple, de la rapidité. Tout le grand courant de la baroquisation, du retour au baroque, aura prescrit des interprétations rapides, en disant qu'il était hérétique, parfois, de trop ralentir le tempo. Mais j'éprouve quand même un désir infini à écouter Glenn Gould.
Musique et moi, Elsa Boublil. France Musique.
Jean-Jacques Ayagon, on a suivi votre cheminement dans la culture jusqu'au jour où vous êtes nommé ministre de la Culture. Comment ça s'est passé ? Comment vous qui avez franchi la porte de la rue de Valois la première fois dans les années 70, qui avez vu cet escalier magnifique, avez-vous accueilli la proposition et surtout comment est-ce que vous l'avez envisagé ?
En arrivant au ministère de la Culture, j'ai eu le sentiment de rentrer chez moi. Ouais. Donc ce ministère m'était connu. Je n'avais pas le sentiment d'une sorte de mission impossible à accomplir. J'en étais heureux. Je vous l'ai dit, j'ai exercé plusieurs fonctions généralistes dans ma vie. J'étais directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. J'ai dirigé le Centre Pompidou, qui est un établissement généraliste, pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Et donc d'arriver dans ce ministère, avoir l'honneur d'y conduire la politique culturelle de la France, est évident que ça m'a inspiré de la joie, naturellement, mais également un sens très très aigu du devoir à y accomplir. Ce ministère n'est pas un ministère banal, c'est un ministère qu'il faut aimer, c'est un ministère où il faut se donner. C'est un ministère où on a le devoir de mettre en œuvre des politiques pour des gens qui sont meilleurs que vous. Parce que tous les gens pour lesquels vous mettez en œuvre des politiques, que ce soit les grands chefs d'établissement, que ce soit les artistes surtout, les musiciens, les danseurs, les plasticiens, les écrivains et tous les autres, ces gens sont meilleurs que vous.
Ils s'y connaissent mieux.
Ils s'y connaissent mieux et de toute façon, c'est eux que l'histoire retiendra, et non pas les quelques années que vous avez pu passer à son service. Donc il faut à la fois être extrêmement humble au ministère de la Culture, en même temps pétri d'une ambition énorme, celle de servir la culture, et aussi celle de servir nos concitoyens, de faire en sorte que la culture leur soit accessible.
Thank you.
Le printemps des quatre saisons de Vivaldi, interprété par le Concerto Italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini avec Stefania Azzaro en premier violon, vont parler, Jean-Jacques Ayagon, de cet art qui est accessible à tous. J'ai choisi à dessein de faire entendre les quatre saisons de Vivaldi parce que précisément, quand l'art devient accessible à tous, la difficulté, c'est de ne pas le dévoyer de son intention de départ.
On ne peut pas réduire les quatre saisons à de la musique d'attente de téléphone ou à de la musique d'ascenseur. Il se trouve que chez moi, dans l'ascenseur, il y a quelques mesures des quatre saisons. Et je me suis toujours dit que Vivaldi méritait mieux parce que c'est de l'immense et de la très très grande musique. Cette tentation formidable de Vivaldi, finalement, de décrire les choses à travers la musique. Cette musique descriptive avant l'heure, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vécu pendant quelques temps à Venise, puisque j'y ai, pour François Pinault, j'y ai dirigé Palazzo Grassi. Donc j'ai bien connu Venise, la campagne vénitienne, la Vénétie, et donc à chaque fois que j'entends les quatre saisons, je revois ces paysages de la Vénétie, l'hiver, l'été, au printemps, en automne. C'est vraiment pour moi associé à aux notes de cette musique et à cette façon magistrale d'ailleurs de l'interpréter.
Pour poursuivre sur ce talent de Vivaldi de savoir nous peindre un paysage avec des notes et poursuivre la conversation avec votre rôle de ministre de la Culture, vous le disiez, rendre l'art accessible à tous, est-ce que c'est une mission qui est vaine? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place?
Non, c'est pour la République une mission prioritaire. Alors elle dépasse la seule responsabilité du ministère de la Culture. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, le seul lieu universel d'acculturation, c'est l'école. C'est le seul espace, c'est le seul lieu dans lequel tous nos concitoyens, toute classe d'âge, tous les individus qui composent une classe d'âge, qu'ils soient français de longue date ou de fraîche date, ont la chance de pouvoir être accueillis. Et donc je sais bien qu'on attend beaucoup de l'école, on apprend d'elle qu'elle enseigne les fondamentaux, on attend d'elle qu'elle accoutume également qu'elle apprenne la vie civique, qu'elle fasse d'enfants, de futurs citoyens. Mais on doit également attendre d'elle qu'elle ouvre des fenêtres sur les arts et sur la culture à tous. C'est la raison pour laquelle je crois à la nécessité d'une coordination vraiment très très forte entre le ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation. Le ministre de la Culture ne peut pas en tout cas faire grand chose tout seul. Il a besoin de s'appuyer sur le ministre de l'Éducation. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai souvent préconisé, mais on ne m'a jamais entendu, qu'on rapproche ces deux ministères. Pendant quelques...
Ils ont essayé récemment.
On avait...
Entre Jean-Michel Blanquer et Françoise Nyssen notamment, ça a été...
Il y a eu quelques tentatives. Jack Lang a été pendant quelques temps chargé conjointement des deux ministères, du ministère de l'Éducation et du ministère de la Culture. Il y a une sorte d'union personnelle, donc d'union de ces deux ministères en la personne de Jack Lang. Mais je crois beaucoup à la vertu et à l'efficacité d'un tel rapprochement. Alors certains me disent, mais on va supprimer cette grande chose qu'est le ministère de la Culture. Mais je crois que pour que le ministère de la Culture soit totalement à la hauteur des missions qu'il doit accomplir, il lui faut également disposer du levier du ministère de l'Éducation nationale.
Donc, levier pédagogique.
Levier pédagogique.
L'ouverture de Platée de Jean-Philippe Rameau, interprétée par les musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski. Ça nous renvoie à un moment de votre vie, Jean-Jacques Ayagon, après avoir été ministre de la Culture. Vous avez dirigé le château et le domaine de Versailles.
Le château, le musée et le domaine national de Versailles.
Voilà, vous le dites précisément, c'est toujours difficile à dire en entier. C'est un concert qui a été donné, Platée a été donné là-bas, c'est ça?
Oui, je crois bien. Platée, j'en suis même sûr, Platée a été donné à Versailles. Vous savez, Versailles, c'est formidable. C'est peut-être la plus belle chose qu'il m'ait été donné de faire dans ma vie professionnelle, que diriger le château. C'est exaltant d'avoir la charge comme ça, d'un morceau de la mémoire, de l'histoire, un patrimoine formidable.
Puis quel patrimoine ?
Des bâtiments, des œuvres d'art, un jardin. Pour moi, le plus bel endroit de Versailles, ce sont les jardins, un public immense, une vie musicale intense qui a été ravivé de façon impressionnante par Laurent Brunner, que j'ai fait venir à Versailles et qui dirige d'ailleurs toujours Château de Versailles Spectacle. Le Château de Versailles peut également s'enorgueillir d'être tout près du centre de musique baroque et donc de pouvoir exploiter cet énorme gisement des répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces répertoires qui ont été révélés au cours des dernières décennies et tirés de l'oubli. Donc Versailles, c'est vraiment, je dis merci Versailles.
Oui, et à la fois, comment parvenir à redonner vie à un lieu chargé d'histoire comme ça, qui pourrait se figer dans son temps, et néanmoins lui donner cet attrait culturel qui fasse qu'on y retourne. Ça, c'est un véritable enjeu, j'imagine, pour vous.
Alors, vous savez, le château de Versailles attire en masse plusieurs millions par an de visiteurs étrangers qui viennent en France et qui ne veulent pas manquer Versailles. Le château de Versailles, c'est l'un des musts de l'offre culturelle française qui se concentre en très très grande partie à Paris, en région parisienne. Mais le château de Versailles, quel que soit le respect qu'on doit porter aux visiteurs étrangers, ça doit également être un lieu cher à nos concitoyens, à ceux qui vivent en France, en région parisienne ou ailleurs. Et donc mon souci a toujours été de faire en sorte que la programmation du château, la programmation des expositions, la programmation de la musique, même parfois des actes qui ont pu apparaître comme iconoclastes, comme l'introduction d'art contemporain dans les murs du château de Versailles, voilà, ressuscite ou réveille l'intérêt.
Koons, c'est ça,
Jeff Koons, Murakami, Bernard Venet, Xavier Veillant, que cette programmation réveille l'intérêt que nos contemporains, que nos concitoyens peuvent porter à ce château. C'est, en culture comme en amour, la pire des choses, c'est l'amour, c'est l'accoutumance. Quand on finit par s'imaginer qu'on connaît tellement bien l'endroit que ce n'est même plus la peine de le regarder ou d'y aller. Il faut réveiller le désir et faire en sorte que les gens aient envie de revenir à Versailles. Mais je le redis, l'intensité, la qualité, l'exemplarité même de la programmation musicale du château de Versailles est un élément très très fort de sa nécessité sur la scène culturelle de notre pays.
Et pourquoi dites-vous que c'est l'un de vos meilleurs souvenirs
Parce que j'y étais heureux, c'était mon dernier emploi public, puisqu'ensuite j'ai été, pour reprendre une horrible expression, frappé par l'âge de la retraite. Donc ça a été en quelque sorte l'apothéose de ma vie publique, et vraiment je damne le sort de ne pas m'avoir donné quelques années de jeunesse en plus pour rester dans cette responsabilité magnifique.
On vous retrouve à bien des occasions, et notamment en ce moment, vous êtes commissaire général de la Biennale des Arts de Nice, où il se passe quand même pas mal de choses. Un extrait de la bande originale du film de François Truffaut, La Nuit américaine, composé par Georges Delru, pour évoquer votre actualité, Jean-Jacques Ayagon. Puisque, donc, je le disais, vous êtes commissaire général de la Biennale des Arts de Nice et commissaire de l'exposition Nice Cinémapolis. Donc, c'était l'occasion pour nous d'en parler et de cette composition qui est quand même d'une force inouïe.
Écoutez, c'est extraordinaire, en effet, hein, cette musique de facture classique, on pourrait croire quasiment un choral de Bach avec sa basse continue qui accompagne l'un des films les plus subtils de la production française, de la Nouvelle Vague, La Nuit américaine, qui est l'histoire d'un film dans le film. Dans le film, c'est un film en abîme, donc un film d'une complexité narrative, mais néanmoins d'une précision totale, et qui surtout a pour principal acteur, pour principal objet, les studios de la Victorine de Nice, puisque toute l'action se déroule dans les studios de la Victorine. Alors, je vous ai proposé que nous évoquions cette actualité tout simplement parce que, à l'occasion du centenaire des studios de la Victorine, à l'occasion de la présentation d'un cycle d'expositions autour du thème du cinéma, on s'est rendu compte que Nice avait été dans notre pays l'une des grandes patries du cinéma. On l'avait oublié dès le début du XXe siècle, dès même la fin du XIXe siècle avec les Frères Lumière en 1896. Des cinéastes vont à Nice pour y trouver les mêmes conditions de travail que d'autres cinéastes sur un autre continent iront chercher en Californie, à Hollywood. C'est la recherche de la bonne lumière, de l'éclairement égal tout au long de l'année. C'est comme ça que le cinéma va naître à Nice. Il va prospérer puisque plusieurs centaines, même plus de 1500 films seront réalisés dans cette ville, dont les studios de la Victorine subsistent toujours. Studios de la Victorine, d'ailleurs, pour lesquels Christian Estrosi a un projet de renouveau. Vous savez, souvent, quand on parle du cinéma sur la Côte d'Azur, on pense à Cannes. Alors, c'est vrai que Cannes a un très, très grand festival. Le cinéma de Cannes, c'est un cinéma fondateur. C'est un moment très, très fort de la vie culturelle de notre pays. Mais, à mes yeux, la vraie patrie du cinéma sur la Côte d'Azur, c'est Nice et ses studios, notamment le studio de la Victorine.
Eh bien, merci, parce que on va pouvoir continuer de voir ce que vous mettez en œuvre à Nice, puisque cette biennale des arts de Nice est dure. Enfin,
elle se poursuit actuellement. Ouais. Donc, les expositions qui ont été ouvertes au mois de juin vont finir, mais c'est une autre grande exposition sur la relation entre Henri Matisse et le cinéma, Ciné Matisse, hein, dont les commissaires sont la directrice du musée Matisse, Claudine Gramont, et Dominique Paigny. Et cette exposition est véritablement une révélation, puisqu'elle met le doigt sur un phénomène majeur. La relation entre Matisse et le cinéma a été une relation essentielle.
Jean-Jacques Ayagon, on va se quitter déjà. On va se quitter avec une œuvre que vous écoutez, je crois, pour vous détendre. Il s'agit des Leçons de ténèbres de François Couperin. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, ces œuvres ?
Écoutez, vous l'avez compris, j'aime le grand siècle. On a parlé de Versailles, on a parlé... voilà, on aurait pu parler de Lully. Voilà, j'aime la musique de ce siècle. C'est une musique faite... à la fois à certains moments pour la réjouissance des sens, mais très souvent également pour l'élévation de l'esprit et peut-être de l'âme. Couperin, c'est un musicien extrêmement janséniste, donc quand on écoute ses lamentations, donc ce rituel de la Semaine Sainte avec ses paroles si bouleversantes et cette musique qui l'accompagne, voilà, on s'élève un tout petit peu au-dessus de son état, de sa condition et de son état d'esprit à un moment donné.
Merci beaucoup Jean-Jacques Ayagon d'être venu partager cette heure et demie avec nous et merci pour ce partage de vos goûts musicaux. Je vous souhaite un bel avenir, notamment à Nice avec la Biennale des Arts de Nice et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Provincia, 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 prov
La première leçon des trois leçons des ténèbres pour le mercredi saint de François Couperin, interprétée par le poème harmonique sous la direction de Vincent Dumestre, pour terminer cette émission en la compagnie de Jean-Jacques Ayagon, qui connaît les paroles par cœur et c'est beau à voir. Un grand merci à vous encore.
Je vous les chanterai la prochaine fois, comme dirait l'autre.
Avec plaisir. Un grand merci à Guillaume Leduc qui était à la prise de son ce matin. C'est Sophie Pichon qui réalise cette émission, assistée de Marie Ferdinand. On se retrouve dimanche prochain à 11h sur France Musique. D'ici là, passez une très belle semaine et n'hésitez pas à aller sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Vous y retrouverez toutes les informations sur les diffusions de ce matin. Très belle semaine.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.